Cours de critique par le père Philippe à Saint-Jeodard le 13 janvier 1988.
Me demande cette question, c'est évidemment de la critique. C'est pas tout à fait la critique au niveau où l'on est maintenant, mais je dis ça rapidement alors. Pouvez-vous préciser ces trois principes? Tout est fait et proportionné à sa cause. Seul un être parfait engendre. On ne peut remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Alors, il faut d'abord bien distinguer. Tout effet est proportionné à sa cause, c'est pour montrer qu'il y a un lien de nécessité entre l'effet et la cause. Alors, ceci revient à dire, tout agent agit selon ce qu'il est, selon sa forme. C'est que toute activité, toute cause efficiente implique une détermination. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une certaine similitude, je dis une certaine similitude, entre l'effet et la cause. Similitude parfaite quand vous avez un agent univoque. L'homme engendre l'homme. Le petit chat engendre le petit chat. Et le gros chat engendre le gros chat. Similitude. Je ne dis pas le mulet engendre le mulet, puisque justement vous êtes en face d'un être et qui est infécond et qui est un mixte, comme la clémentine. Alors, ça c'est le point de vue de la similitude. Dans tout effet vis-à-vis de sa cause, il y a une similitude. Similitude de une certaine proportion. Une similitude parfaite ou une raison de similitude, alors c'est toutes les causalités analogiques. Entre l'artiste et sa cause, il y a une certaine proportion. Donc ceci relève du principe de causalité, d'une conséquence du principe de causalité. Seul un être parfait engendre, c'est la structure de la causalité. Il faut être parfait pour engendrer. La cause est toujours plus parfaite que son effet. Or, la génération implique une causalité au niveau de la vie, donc il faut nécessairement être parfait pour être source de vie. On ne peut remonter à l'infini dans l'ordre des causes, alors là, c'est une chose très délicate et très difficile et très intéressante. Il y aurait là une petite recherche historique très intéressante à faire, facile mais très intéressante à faire. À partir de quel moment dans notre philosophie occidentale le principe a-t-il été émis? On ne peut pas remonter à l'infini dans des causes. C'est déjà chez Platon. Et c'est très curieux que, au-delà du principe de causalité, c'est ce qui demeure. Voyez? On ne peut pas remonter à l'ordre de l'infini dans des causes. Ce n'est pas au sens strict le point de vue de la causalité. Mais c'est de fait la condition sine qua non. Pour qu'il y ait causalité, il faut une détermination. Pour qu'il y ait une détermination, on ne peut pas remonter à l'infini dans des causes. Donc c'est la condition sine qua non pour que la causalité existe. Si vous remontez à l'infini dans des causes, il n'y a plus de causalité. Condition sine qua non. Alors, qu'est-ce que c'est que la condition sine qua non, hein? Vous voyez, la condition sine qua non exprime le lien, exprime une loi. Une loi exprime une condition sine qua non. Une loi n'exprime pas nécessairement une causalité, mais exprime un lien qui existe entre deux choses. Alors, on pourrait dire, vous voyez, que c'est un aspect secondaire de la causalité. On ne peut pas remonter à l'infini. Mais secondaire, essentiel, mais secondaire. Tout toute causalité implique une détermination. Remonter à l'infini dans des causes, c'est relativiser tout. Et donc, au terme, c'est supprimer la détermination. On verra mieux ça avec la relation. Prétendre que tout est relatif, comme certains le prétendent au point de vue scientifique, c'est la destruction de l'être. Einstein, la relativité absolue. C'est vrai au niveau scientifique et c'est faux au point de vue philosophique. La relation présuppose toujours quelque chose d'autre. Un être relatif n'est pas premier. Un être relatif est second. Donc prétendre que tout est second, c'est supprimer l'être. Alors c'est vrai au niveau de la science du conditionnement, et c'est faux au niveau de la philosophie. Parce que c'est... Vous voyez, si tout est relatif, on peut remonter à l'infini. C'est pour ça que c'est très délicat, cette question-là. Il y a eu un article, où, je ne sais plus en quelle année, dans la revue de la philosophie de l'Institut catholique, un article du père Dubarle, Dominique Dubarle, là-dessus, à propos des preuves de l'existence de Dieu, en montrant que les preuves de l'existence de Dieu, telles que saint Thomas les données, n'étaient pas acceptables pour la science d'aujourd'hui. C'est bien évident. Parce qu'au niveau scientifique, vous pouvez remonter à l'infini. Or, toutes les démonstrations de saint Thomas reposent sur le fait qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Par définition. Puisque vous découvrez un être premier, donc vous ne pouvez pas remonter à l'infini. Si vous pouvez remonter à l'infini, vous ne découvrirez jamais un être premier. C'est pour ça que quand on donne que la science implique la relativité, la science physique implique la relativité absolue, vous ne pouvez pas découvrir un être premier au niveau purement scientifique. Alors c'est très délicat cette question, parce que c'est l'imaginaire qui nous fait croire qu'on peut remonter à l'infini. C'est l'imaginaire, tout est relatif. L'être de raison est un être relatif. Si l'être de raison est un être relatif, au niveau de l'être de raison, on peut remonter à l'infini. Point de vue purement logique, on peut remonter à l'infini. Rien qui est gênant. Tandis que le jugement d'existence nous montre que l'être est déterminé. Quand vous découvrez la substance comme principe propre de ce qui est, immédiatement, vous comprenez qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Puisqu'il y a un premier. Il y a un principe. Remonter à l'infini, c'est supprimer les principes, c'est ne plus accepter que des lois. Toute la différence entre la loi et le principe. La loi est une relation de nécessité, une constante, tandis que la découverte de la cause et du principe, c'est la découverte d'un premier. On va dire plus. Pour le moment, nous y reviendrons quand on verra les principes au plan critique. Alors, je continue. La critique du jugement. Et on se posait la question, ce qui est très important et très intéressante, la critique du jugement d'existence, ceci est. C'est le jugement le plus simple, ceci est. C'est pour ça qu'il faut tout le temps revenir à ça. Qu'est-ce qui spécifie ce jugement, ceci est. Qu'est-ce qui détermine ce jugement? Le nom et le verbe. Grammaticalement, le verbe est relatif au nom. Métaphysiquement parlant, le nom est relatif au verbe. Ah, ça c'est très très intéressant pour montrer qu'il n'y a pas de philosophie de la parole. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas de philosophie au niveau purement du langage. Ce que saint Thomas ne cesse de répéter, qu'Aristote a cessé de répéter. Il a dit ça face aux sophistes. Les sophistes sont les philosophes de la parole. La philosophie n'est pas au niveau de la parole, elle est au niveau de la réalité et au niveau de l'homme. Tandis que les sophistes, c'est au niveau de la parole. Donc quand vous êtes en face de la philosophie de la parole, de la philosophie des noms, vous pouvez dire que vous êtes en face des sophistes. Vous voyez, ici, ce petit schéma très simple, hein, vous êtes en face du jugement premier. Ceci est. Au niveau grammatical, c'est facile de comprendre que le verbe est relatif au nom. Et est relatif à ceci. Les catégories nous disent que la substance première, c'est ce qui est attribuable à rien et tout lui est attribuable. C'est le nom. C'est ça la substance première. Au niveau des catégories. Ceci n'est attribuable à rien. C'est ceci. Hoc. Ceci. On le monte du doigt. C'est attribuable à rien. Vous le découvrez, vous ne le découvrez pas, le ceci. Donc, au niveau grammatical, c'est net, le verbe est relatif à ceci. Au niveau philosophique, critique, où nous nous plaçons, pour essayer de comprendre, qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence? Est-ce que le jugement d'existence, c'est le ceci qui commande et, ou c'est et qui commande le ceci? Posez-vous la question comme ça. Si le ceci commande est, il faut donc, dans le ceci, découvrir être. Il y a donc un lien de nécessité entre le ceci et est. Or, ceci n'est vrai que pour Dieu. Quand le ceci est Dieu, il implique l'exister. Le fameux raisonnement extraordinaire de saint Anselme. Quand le ceci est Dieu, il implique l'existence, nécessairement. Mais quand le ceci n'est pas Dieu, c'est-à-dire que le ceci, c'est Pierre, hein, Pierre. Est-ce que Pierre existe nécessairement? Mais non, Pierre est contingent. Pas seulement Pierre, mais le minet. Il est contingent. Et toutes les réalités que vous voyez sont contingentes. Donc, elles n'impliquent pas en elles-mêmes l'exister. Toutes les réalités que vous voyez, elles sont contingentes. Donc, je ne peux pas dire, hein, vous voyez bien, je ne peux pas dire que du non, je vais atteindre est. Est vient de l'extérieur et ajoute quelque chose. C'est ce que Kant a très bien compris quand il a dit que sans thaler, hein, sans thaler, c'est pas la même chose que sans thaler qui existe. Mais au point de vue du concept, Kant ne conçoit que le point de vue de l'idéologie, de l'idée. Pour nous, dans un réalisme, vous compreniez bien que est en acte. Et ça vient actuer le ceci. Ce n'est pas ce qui est en puissance qui me fait comprendre l'acte. C'est l'acte qui me fait comprendre la puissance. Donc, si je veux comprendre profondément, là je vais très rapidement, hein, toute critique présuppose la métaphysique. Et donc présuppose l'antériorité de l'acte sur la puissance. Or, pour expliquer radicalement ce que c'est que le jugement d'existence, je suis obligé de faire appel à la métaphysique de l'acte et de la puissance. Qu'est-ce que c'est que est? C'est l'acte d'être. Qu'est-ce que c'est que le ceci? Le ceci peut exister ou peut très bien ne pas exister. Pierre, il peut exister ou pas exister. Donc, c'est par et que je comprends le ceci. Oui, c'est juste l'inverse de l'aspect grammatical. Ça, c'est très important de comprendre ça. Il faut y réfléchir. Donc une philosophie de la parole, une philosophie du langage, ne peut jamais nous mettre en présence d'un absolu. On reste dans le relatif. Tandis qu'au contraire, si je fais la philosophie du jugement, je vois que c'est par « et » que j'atteins ceci. Autrement dit, c'est le verbe. Le verbe, c'est l'action. Et l'action, dans ce qu'elle a de plus pur, c'est l'acte d'être. L'acte d'être, c'est ce qu'il y a de plus pur. C'est au-delà de l'action, c'est l'acte d'être. Et cet acte d'être, ceci est, va actuer le ceci dans le jugement d'existence. C'est donc par l'acte d'être que je comprends le ceci. Puisque c'est par l'acte que je comprends la puissance. C'est toujours par là que vous comprenez la puissance. Vous comprenez, prenez l'exemple très très simple, hein, le gland et le chêne. Vous ne comprenez le chêne que quand le chêne est en acte, et non pas en regardant le gland. Vous regardez indéfiniment le gland, vous grossissez indéfiniment, vous n'allez pas comprendre le chêne. Et la semence est en puissance ce qui va devenir l'arbre. Et ce n'est pas la semence qui fait comprendre l'arbre, c'est l'arbre qui fait comprendre la semence. C'est très important ça, vous voyez, ça n'a l'air de rien. Mais vous voyez que toutes les erreurs contemporaines viennent de là. Pourquoi, de fait, certains acceptent normalement le fait de supprimer l'embryon ? C'est qu'ils n'ont pas compris que l'embryon ne peut se comprendre que par l'homme. Quand il s'agit d'un embryon humain. Et vous dites, ah, je ne peux pas tuer l'homme. Donc, je ne peux pas tuer l'embryon. Tandis que si vous voulez comprendre l'embryon pour lui-même, vous n'atteignez pas l'homme. Vous dites, oh, c'est rien du tout. Je ne peux comprendre ce qui est en puissance que parce qu'il est en acte. Vous avez les mêmes erreurs au point de vue exégétique. Vous voulez comprendre l'ancienne alliance par la... Vous voulez comprendre la nouvelle alliance par l'ancienne alliance. Donc, l'imparfait fait comprendre le parfait. Le ceci doit nous faire comprendre est. C'est élémentaire, toutes ces erreurs. Et parce que ça se dit, tout le monde dedans, entre dedans. C'est le parfait qui fait comprendre l'imparfait. Dans votre vie, c'est comme ça, voyons. C'est la qualité qui fait comprendre la quantité, c'est pas l'inverse. La quantité, vous pouvez en ajouter indéfiniment, mais vous ne comprendrez pas. Donc c'est le parfait qui fait comprendre l'imparfait. C'est l'acte qui fait comprendre la puissance. Alors, je vais essayer de comprendre maintenant, hein, cette espèce de petite alchimie particulière qui se passe dans le jugement. Nous avions vu précédemment que avant le jugement, il y a l'appréhension. L'appréhension regarde l'équidité. L'acuité, elle est genre, différent spécifique, espèce, propriété, accident. Hein, n'oubliez jamais ça. C'est les cinq modalités de l'universel qui sont saisies par l'appréhension. Les cinq modalités de l'universel. Par où je capte la réalité, par où je capte les déterminations essentiel. La quidité, c'est les déterminations essentielles. C'est le noyau essentiel. TOTNA9. Bon, l'appréhension saisit ça. Comment expliquer le passage de l'appréhension, c'est-à-dire de la notion générique? La notion générique, c'est animal. La notion différente, raisonnable. L'espèce homme. Comment passer de homme à pierre? C'est quand même quelque chose, hein. Comment passer de chat à minet? C'est comme quelque chose. Ou Azor, je ne sais pas, le chien Azor. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est Minet ou Chat? Est-ce que c'est homme ou pierre? Hein? Je vous laisserai un petit travail là-dessus, ça vous amuserait beaucoup. Hein? Qu'est-ce qui est premier? C'est toute la critique, ça, de l'appréhension et du jugement. Est-ce que en additionnant l'appréhension, j'arrive au jugement? C'est Occam qui dit ça. Vous voyez l'aspect quantitatif et la perte de l'être. Dès que je dis ça, je ne saisis plus l'être. Je suis dans le monde d'équidité. Donc dans le monde des déterminations essentielles, abstraites, universelles. Je peux additionner indéfiniment l'universel, je ne rejoins pas le singulier. Le singulier a quelque chose d'unique. C'est pas parce que je connais homme que je connais pierre. Si je crois que homme mesure pierre, je fais des erreurs énormes. Parce que pierre a quelque chose d'unique qui n'est pas contenu dans homme. Ça, c'est du gros bon sens. Quand vous allez acheter des navets, on vous donne un navet, on ne vous donne pas le navet. C'est comme ça tout le temps. Tu vois. L'individu singulier a quelque chose d'unique, qui est irréductible à l'idée que vous avez du navet, ou vous avez de la carotte, et que vous avez de l'homme. Tout ça. Connaissance générique, quiditative, l'appréhension. Alors nous avons dit que l'appréhension est première, comparativement au jugement qui est parfait. Or, l'appréhension est imparfaite et le jugement est parfait. Je connais l'imparfait par le parfait. Je reviens sur cette chose-là. Alors vous voyez cette chose très curieuse, hein, c'est que je me sers, en effet, je me sers de mon appréhension pour atteindre ceci est. Ceci, c'est pierre. Hein. Le passage de homme ou de animal, mettez homme, c'est plus simple, de homme à pierre, comment ça se fait? Ça se fait grâce à l'être. Grâce à « et ». Vous voyez cette chose très étonnante. Hein? Très étonnante, que je ne peux saisir le nom, le singulier, pierre qui existe, que par le verbe « être ». Primo cadit in intellectu, ens. Ce qui tombe en premier lieu, hein, le cadit dit en arabe, hein, ça je leur demanderai. Le cadit, primo cadit, puisque c'est Avicenne, c'est une phrase Avicenne que saint Thomas, après la traduction latine, a gardée. Parce que saint Thomas ne le dit pas en arabe. Il ne savait pas ce que c'était que l'arabe. Alors, primo cadit in intellectus ens. Qui? Vous mettrez ça sur un petit papier, ça m'intéresserait beaucoup. Parce que vous mettrez sur un papier comment le primo cadit in intellectus en Avicenne est dit en arabe, quel est le terme, le verbe arabe qui a été traduit par cadit. Parce que peut-être qu'on trouvera là quelque chose de particulier. Il faut revenir à la source. Or, de fait, le primo cadit in intellectus est avicénien. Il n'est pas grec. Aristote ne dit jamais ça. Donc, il est passé par Avicenne. Et il est passé en latin. Or, cadit est quand même quelque chose de très particulier. Primo cadit in intellectus ens. Ça veut dire que la première chose que mon intelligence saisit, c'est ce qui est. Ens. Ens en latin. Ce qui est. Et vous voyez, c'est ça. Primo cadit in intellectus ens. Oui, quand saint Thomas dit ça, il montre que au-delà de l'appréhension, il y a la connaissance de l'être. Or, l'être, au sens absolu, je ne l'appréhende pas. C'est cette fameuse phrase d'Aristote que saint Thomas reprend tout le temps. L'être n'est pas un genre. Si l'être n'est pas un genre, je ne peux pas connaître l'être quiditativement. Je ne peux pas connaître l'être comme une quidité, puisque l'être n'est pas un genre. L'être est au-delà du genre. Donc, ceci, c'est très très important, ça montre que ma connaissance est premièrement analogique. Elle n'est pas premièrement générique. Ma connaissance, puisque c'est ens, qui est au-delà du genre. Ma connaissance est donc premièrement analogique. Et si je ne regarde plus cet aspect analogique de l'être, je ne connais plus rien. Et je ne connaîtrai plus que l'aspect logique du genre et de la différence spécifique. Il faut saisir ça, hein, c'est très très important, c'est quelque chose... C'est pas l'intuition de l'être. Saint Thomas ne dit pas intuition de l'être. Il dit primo cadit in intellectus. Alors vous voyez, c'est là où, quand Maritain traduit intuition de l'être, je crois qu'il fait une erreur. L'intuition, c'est l'intelligence qui est active. Cadit, c'est l'intelligence qui reçoit. Alors, on voit très bien comment, quand je respecte l'intelligence qui reçoit, l'intelligence se laisse impressionner. Elle est déterminée par ens. La détermination radicale de l'intelligence, c'est ens. Au-delà de toute quidité. Alors, je continue pour essayer de comprendre. Comment par ens, ce qui est. Ce qui est, c'est toujours le singulier. L'universel n'existe pas, sauf dans mon intelligence. Vous ne l'avez jamais rencontré, moi non plus. Ce serait un spectre. Vous auriez une fausse intense de rencontrer l'universel. L'universel n'existe pas, il n'existe que dans votre intelligence. C'est vous qui lui donnez existence à l'universel. Vous pouvez créer des êtres de raison, mais pas plus. Aujourd'hui, on crée des robots. C'est des êtres de raison. Si on était un peu plus réaliste, on dit robots, êtres de raison. Mais on ne veut pas que ce soit un être de raison, on veut que ce soit un être qui existe. C'est un robot, c'est un être de raison. C'est l'intelligence qui le crée. L'intelligence crée l'universel. L'intelligence réalise l'universel. Voilà ce qu'elle est capable de faire. L'universel n'existe que dans mon intelligence. Il n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, il existe toujours des êtres singuliers. Primo cadit in intellectus ens. Donc, je saisis par l'être le singulier. Et le singulier contient une détermination universelle, homme, quand je dis Pierre existe, homme est saisi dans Pierre. Mais il est saisi dans Pierre d'une manière telle que je m'en sers pour dire Pierre. Quand je saisis intellectuellement Pierre, je saisis homme. Et je dépasse homme parce que je regarde l'homme qui existe. Et l'homme qui existe, c'est Pierre. Donc vous voyez que le propre de l'intelligence dans le jugement, c'est de saisir ce qui est dans le singulier. Et je saisis ce qui est dans le singulier en utilisant une forme quiditative, homme, qui a un mode universel. Alors je suis très loin de ce qu'on appelle l'intuition. Ce n'est pas du tout l'intuition. C'est l'intelligence qui coopère avec le réel. Tandis que dans l'intuition, je ne coopère pas beaucoup dans le réel. C'est mon intelligence qui est active. Tandis qu'au contraire, là, je suis passif et je coopère avec ce qui est, pour connaître ce qui est. Et je connais en premier lieu le singulier. Ah, quand je dis je connais en premier lieu le singulier, attention, je connais parfaitement le singulier. Ceci est. Mais cette connaissance du singulier implique une appréhension, des appréhensions que j'utilise. Donc, ce qui est connu parfaitement en premier lieu, c'est le singulier, ce qui est. C'est pour ça que le jugement d'existence, ce qui est, c'est la connaissance parfaite, première, qui présuppose des connaissances imparfaites, quiditatives de l'appréhension. Et comment j'essaie de comprendre le lien entre appréhension et jugement. Et je comprends que le jugement est de l'ordre du parfait parce qu'il met en contact avec le réel. C'est quand je juge que mon intelligence est capable d'atteindre la vérité. Quand mon intelligence appréhende, elle ne saisit pas la vérité. En dehors. Il n'y a pas de vérité au niveau de l'appréhension. Tandis que la vérité apparaît au niveau du jugement et au niveau du jugement d'existence. Ça, c'est capital de comprendre ça. Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est un conditionnement. C'est de l'ordre du conditionnement. Oui. C'est de l'ordre, vous voyez, c'est l'élément. Le parfait, c'est le jugement. Et la scolastique décadente, alors là on touche l'erreur de la scolastique décadente, qui est venue très vite, hein, des Occam. La scolastique décadente a été de faire de l'appréhension l'opération intellectuelle dominante. Et le jugement s'est expliqué par l'addition de l'appréhension. D'où ces querelles scolastiques entre Don Scott et le thomisme, en disant pour Don Scott, ce qui est premier, c'est le singulier, pour le thomiste, ce qui est premier, c'est l'universel. Vous étiez bien plantés. Les thomistes, ils se nourrissent de l'être de raison. Tandis que Don Scott, il se nourrit du réel existant. Si c'était vrai, je serais scottiste. Vous voyez comment le problème s'est posé? Et là, ça fausse tout. Ça fausse tout. En réalité, saint Thomas nous dit « Primo cadit in intellectus ens ». Primo cadit, donc la première chose que l'intelligence connaît, c'est ce qui est. Or, ce qui est n'existe que dans le singulier. Donc c'est bien le singulier, je connais en premier lieu. Mais pour connaître le singulier, il a fallu du carburant. Pour connaître le singulier, il a fallu appréhender. L'appréhension est une condition sine qua non du jugement. Condition sine qua non. Ce n'est pas la cause du jugement. Condition sine qua non. Il a fallu appréhender pour juger. Mais qu'est-ce qui détermine le jugement? Ce n'est pas l'appréhension. Je dépasse l'appréhension pour rejoindre ce qui est. Ce qui détermine le jugement, c'est donc pas l'acuité. L'appréhension est déterminée par l'acuité, est spécifiée par l'acuité. Qu'est-ce qui spécifie le jugement? C'est ce qui est. Alors je vois là que la spécification du jugement est tout différent de la spécification de l'appréhension. Parce que c'est ce qui est qui détermine mon jugement. Or, ce qui est, non seulement détermine mon jugement, mais aussi le termine et le mesure. Alors apparaît tout de suite ici quelque chose de tout à fait nouveau, qui est propre au jugement. Et je crois que ça, c'est très très important à bien saisir. Ce qui est. Ens. Le Ens de saint Thomas. Le Ens d'Avicenne. Ce qui est. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est là qu'il y a une communion profonde avec Avicenne. Il y a quelque chose qui demeure. Alors, il y a quelque chose qui demeure avec le néoplatonisme. Il y a le ens. Ce qui est. Donc, ce qui est spécifie. Le jugement. Le jugement, ceci est. Ceci est spécifié par est. Pas par ceci. Qu'est-ce qui donne le sens profond au jugement? C'est est. Ens. Ça qui détermine. Tandis que ce qui détermine l'appréhension, c'est la quidité. C'est donc homme. C'est animal. Ce n'est pas « est ». On demeure ici dans le domaine de l'univocité. Et ici, on dépasse l'univocité pour tout de suite entrer dans une connaissance analogique. Parce que « est » est au-delà du genre. Je ne peux pas enfermer l'être dans un genre. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que le genre demande d'être déterminé par autre chose que le genre. Alors l'être demandait d'être déterminé par autre chose que l'être, ce qui est impossible. Ce qui détermine l'être, c'est l'être. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors. C'est pour ça que l'être ne peut pas être dans un genre, est au-delà du genre. Donc, ce qui est spécifie le jugement. Le jugement, ceci est. Non seulement il spécifie, mais le termine. Terminer, spécifier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le termine. Le jugement se termine dans la réalité qui existe. Le jugement ne se termine pas dans l'intentionnalité, mais se termine au réel. Et c'est parce qu'il se termine au réel que le réel le mesure. J'ai donc là quelque chose de tout à fait nouveau. C'est l'objet qui spécifie. L'objet spécifie. L'objet, c'est ce qui détermine. Donc c'est ce qui spécifie. Ici, je suis en face de la réalité singulière, le singulier. Ce qui est. Ce qui est ne peut pas être entièrement assimilé. Qu'est-ce que j'assimile? C'est l'appréhension. Le jugement n'a pas comme activité propre l'assimilation. Il a de recevoir l'être et d'y adhérer. C'est pour ça que ce qui caractérise le jugement, ce n'est plus l'assimilation, c'est l'adhésion. On adhère. On adhère à ce qui mesure ma connaissance. Ce qui est au-delà de ma connaissance, que je connais. Je ne peux pas adhérer sans connaissance. Mais adhérer n'est pas assimiler. Adhérer présuppose une certaine assimilation. Mais adhérer est au-delà de l'assimilation. J'adhère à ce qui est. Et ce qui est mesure. vous voyez bien ça. Ça, c'est très important. Oui.
Vous dites que le parfait, c'est le jugement, le réel. Est-ce
oui.
que vous expliquez un peu ce que ça veut dire parfait ?
Parfait au point de vue de la connaissance. Et c'est très facile à comprendre, c'est que seul le jugement est capable d'être vrai. La vérité, c'est la qualité de la connaissance, et c'est ce qui me permet à ma connaissance d'être parfaite. Une connaissance est parfaite que quand elle est vraie. Une connaissance qui n'est pas vraie n'est pas parfaite. Oui, la vérité qualifie la connaissance. Et la vérité est qualité de la connaissance. Donc, une connaissance parfaite, c'est une connaissance qui atteint, qui est capable d'être vraie. L'appréhension, elle n'est ni vraie ni fausse. Elle appréhende. C'est tout. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait qu'assimiler. Je suis dans l'ordre quiditatif. Alors, ce qui est très important de bien voir, ça nous le verrons la fois prochaine, c'est de voir comment l'assimilation, l'appréhension, demeure dans l'ordre de l'intentionnalité, alors que le jugement dépasse l'intentionnalité. Et c'est là où vous voyez la fragilité de toute la philosophie phénoménologique qui demeure dans l'intentionnalité et qui ne sait plus ce que c'est que le jugement. C'est une philosophie qui a peur du réel. Des quantités de gens ont peur du réel. Tant que je suis dans l'appréhension, je n'ai pas peur, voulez-vous, sur mon domaine. Je plane. Personne ne m'atteint. Animal. Je n'ai jamais rencontré. C'est merveilleux. Homme. Je n'ai jamais rencontré. Merveilleux. Je n'ai pas peur. Ah, mais si je rencontre Pierre, c'est tout à fait différent. C'est l'homme qui existe. Il faut une force d'attaque pour rencontrer le réel, pour accepter d'être mesuré par le réel. Ce qui est très étonnant dans l'appréhension, c'est qu'on n'est pas mesuré, on assimile. Et quand on assimile, on est heureux. Le petit chat, dans son ronronnement, il assimile. Le contemplatif, il affronte le réel. Vous voyez, la méditation, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Tandis qu'au contraire, la contemplation, c'est de l'ordre du jugement. C'est le réel. Il y a là quelque chose de très important de comprendre comment l'assimilation me fait demeurer dans l'intentionnalité. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité ? Ça, c'est un mot barbare. Philosophique, qui est très important en critique. Qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité ? Husserl parle tout le temps d'intentionnalité. Alors, l'intentionnalité husserlienne n'est pas l'intentionnalité thomiste. Mais cependant, c'est le même mot. Donc il y a un petit quelque chose de commun. C'est Brentano qui a remis en lumière l'intentionnalité dans la philosophie moderne. Brentano était dominicain et puis il a quitté les dominicains. Et c'est pour ça qu'il est devenu illustre. Alors Brentano a mis en lumière l'intentionnalité. Et quelqu'un comme André de Muralt, professeur de philosophie à Genève, s'est mis à étudier l'intentionnalité à travers toute la philosophie. Parce qu'il a trouvé que c'était possibilité à la fois de tout attaquer et de tout comprendre, ou de tout comprendre et de tout attaquer. Donc c'est quelque chose de très important, l'intentionnalité, de voir que l'intentionnalité naît dans l'appréhension et que l'intentionnalité est dépassée dans le jugement. Ça, c'est impressionnant, c'est le mur du son, vous voyez. On dépasse quelque chose dans le jugement, on dépasse l'intentionnalité pour atteindre le réel. C'est pour ça que je dis ce qui est termine. Dans l'appréhension, vous restez dans l'ordre de la spécification. Et le jugement peut toucher quelque chose qui est au-delà de l'intentionnalité. Ce qui montre bien que l'intelligence n'est pas faite pour l'intentionnalité. Quand je dis que l'intelligence est faite pour l'intentionnalité, je demeure dans un monde idéal. Et je dis la première chose que l'intelligence connaît, c'est les idées. Les idées, c'est l'intentionnalité. L'intelligence est faite pour ce qui est, et ce qui est n'est plus de l'ordre de l'intentionnalité, c'est de l'ordre du réel. Et là, on est en face du partage entre l'idéalisme et le réalisme. L'idéalisme, c'est de faire que l'appréhension devient l'opération principale de l'intelligence. Et le réalisme consiste à considérer que le jugement est seule une connaissance parfaite.